Bon, tout d'abord, merci d'être là malgré les grèves, comme le veut désormais la formule rituelle. Donc on continue sur ce qu'on a vu la dernière fois, où il y avait... Chahit était là, mais je crois que vous trois, vous n'étiez pas là. Je crois que Benjamin non plus n'était pas. Donc pour résumer très rapidement ce dans quoi on est, même en plein milieu, parce qu'on n'avait pas fini ce qu'on devait faire... Donc, on est sur ce troisième verset qui dit « Vayomer Elohim yehi or, vayehi or ». Et ce qui interpelle les commentateurs, en particulier Rashi, mais qui est le représentant d'un souci plus général, c'est qu'il aurait fallu qu'on dise, en toute cohérence vis-à-vis des autres versets, « Vayomer Elohim yehi or, vayehi chen », qu'il y ait une lumière, ou qu'il y ait de la lumière, et ce fut ainsi, parce que c'est comme ça que c'est marqué à chaque fois dans la suite. Or là, il y a une répétition du mot « or », ce qui implique que la deuxième lumière n'est pas identique à la première lumière. Et ce qui est souligné par le fait qu'il n'y a pas d'article, qu'il n'y ait pas d'article défini. Donc, il dit qu'il y ait une lumière et il y a une lumière, mais qui n'est pas forcément identique à la lumière qui est déclarée. Et de là, le Alcher, qui fait une bonne synthèse et qui va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs, a tout un développement sur cette question. En expliquant notamment qu'il y a, de fait, une distinction entre différents degrés de lumière, et que c'est ça la problématique du verset. Et il s'accrochait à un midrash qui fait référence, puisque c'est le midrash rabat sur ce verset-là, où il y avait une citation, une formulation de Rabbi Shmuel Bar Nachman, Rabbi Shimon ben Yotzadak posait la question à Rabbi Shmuel bar Nachman, d'où a été créée la lumière? Ce qui, dit le Alcher, pose la question, pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Si on est dans un contexte de création ex nihilo, la question à partir de quoi ou d'où a été créée la lumière, elle ne devrait pas être posable. Et que Rabbi Shmuel bar Nachman lui répondait, Dieu s'est enveloppé de la lumière comme d'une étole, et il a fait éclater le rayonnement de sa gloire d'un bout du monde à l'autre. Et la question qui se posait, c'était, Rabbi Shimon lui dit, mais attends, ça, en fait, c'est... C'est un verset explicite qu'il dit, il s'est revêtu de la lumière comme d'une étole, et donc qu'est-ce que tu apportes dans ton enseignement? Et ce que Alcher soulignait, c'est que normalement, si on prenait ce verset-là au pied de la lettre, ce verset-là ne parle pas de la création de la lumière, il dit que Dieu s'est enveloppé de la lumière comme d'une étole, donc ça ne parle pas de la création de la lumière. Donc, ça, quand c'est interprété en disant que la lumière dont il est question dans le verset est le résultat de cet enveloppement, donc déjà il y a une distinction entre la lumière dont on parle dans le verset et la lumière dont s'enveloppe Dieu. Et de là il passait à une autre distinction qui était que puisque cette lumière est décrite comme permettant de voir d'un bout du monde à l'autre, alors ça ne peut pas être la lumière physique au sens où nous on l'entend, parce qu'elle est nécessairement limitée dans son pouvoir. La lumière, aussi intense soit-elle, ne nous permettra jamais de voir d'un bout du monde à l'autre. Ce qui nous permet de voir du bout du monde à l'autre, c'est la lumière intellectuelle, qui nous permet justement d'avoir une vision intellectuelle de tout le réel. D'accord ? Dans un regard intellectif englobant. Et que cette lumière intellectuelle est à distinguer de la lumière divine en soi, qui est au-delà de l'intellect, et qui, elle, au contraire, est insupportable pour notre intellect, parce qu'on ne peut pas l'assumer comme une lumière trop trop violente qui nous aveugle au lieu de nous permettre de voir. Donc il y a déjà, dit-il, ces deux degrés-là. Donc il a distingué en gros pour l'instant trois degrés lumière. La lumière divine en elle-même, alors, qui n'est déjà pas Dieu, mais qui est le rayonnement de la gloire divine. La lumière intellectuelle qui nous permet de connaître l'ensemble du monde créé qui serait dérivé de cette première lumière, et la lumière physique qui serait dérivée de cette deuxième lumière. Donc on a ces trois degrés-là.
La lumière physique serait dérivée de la lumière intellectuelle.
Oui, ce serait une dégradation, c'est-à-dire on parle de la même chose, c'est-à-dire finalement la lumière est définie finalement dans des termes que ne renierait pas Aristote comme quelque chose, comme un moyen terme qui permet de percevoir, qui permet de faire le lien entre le sujet connaissant ou voyant et l'objet connu ou vu, mais que finalement, de la même manière que Aristote fait de la lumière physique un analogue de la lumière intellectuelle dans un ordre épistémologique, on peut comprendre comment fonctionne une lumière intellectuelle, ce que Aristote appelle l'intellect agent, en prenant exemple sur la façon dont fonctionne l'intellect physique, mais dans l'ordre des choses elles-mêmes, c'est la lumière physique qui est dérivée de la lumière intellectuelle, parce que finalement, elle fonctionne de la même manière, mais sur un mode plus limité.
Qu'est-ce qu'il appelle dérivée ? Autant qu'elle soit un dégradé, qu'elle permette moins que la lumière intellectuelle, ok, mais dérivée, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'elle existe parce que la lumière intellectuelle existe ?
Oui, c'est-à-dire il y a cette notion-là qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les traditions, dans beaucoup de traditions philosophico-religieuses. Il y a un livre absolument fondamental de Al-Ghazali qui parle de ça, Mishkat al-Anwar, le tabernacle des lumières, ça existe en français d'ailleurs, en poche même, qui se consacre justement à cette question-là, sur la hiérarchie des lumières intellectuelles, des lumières physiques, qui se base sur un verset coranique qui est finalement assez proche de l'analyse qui est faite de notre verset, puisqu'il parle, de la lumière divine et il emploie l'expression « nur al-nur », c'est-à-dire « lumière sur lumière ». Il y a cette répétition de la double lumière qui est interprétée dans la tradition islamique de la même manière que ici le « yehi or va yehi or » est interprété. Et il y a cette idée-là, chez Al-Sheikh, mais pas seulement, et chez Al-Ghazali aussi, que finalement il y a un continuum entre le domaine intellectuel et le domaine physique. Qu'il y a un domaine donc divin qui est un premier niveau d'archétype, et que, qui imprime un modèle intellectif qui à son tour imprime le modèle physique. Et ce qui permet ensuite toute la série de renvois symboliques que les métaphores naturalistes renvoient à des réalités intellectuelles et que les réalités intellectuelles renvoient à leur tour vers des réalités divines. C'est ça le schématisme sur lequel il fonctionne. Alors, on va reprendre le texte maintenant.
C'est quand même pas une métaphore. C'est le lien de causalité. Enfin, s'il est dérivé, c'est qu'il y a une causalité.
Oui.
Alors, elle serait de quel ordre cette causalité qui ferait que de la lumière intellectuelle. Mais bon, je sais pas. Ouais. C'est juste ça que je comprends pas. Mais autant la hiérarchie, je peux comprendre. Une hiérarchie, ok. Mais la causalité, j'aurais souhaité. Enfin,
parce que comme on est dans une logique de création, de description de la création, il faut bien que, même si les mots, comme le dit Maïmonide, changent de sens à mesure de la narration, il faut quand même qu'il y ait un continuum de sens. D'accord ? Et que, donc, quand on parle de la lumière ici dans le premier verset, donc on a compris que ce n'était pas la lumière du soleil, mais que pour autant, la lumière du soleil n'est pas complètement étrangère à ça, et que finalement, il y a une suite logique et une suite causale dans cette création. Voilà, on était là. Ok. Donc c'est la page Zayin ici, dans le Al-Sher. En haut de la colonne de gauche, C. Cinquième ligne. Bon, donc, maintenant qu'il a explicité cette notion de ce que la lumière dont on parle, c'est la lumière de l'intellect, donc, il explique pourquoi il y a une question sur de quoi elle a été créée, à partir de quoi elle a été créée. Et il dit « Veuki darato », donc l'opinion du Midrash, « Ke askamat rov rabotinuzal, shekol ma shenivra besheshet yame bereshit, nivra behareot shamim varetz. » Donc le Midrash pense ici comme la majorité des maîtres de la tradition rabbinique, qui est que, comme le dit en particulier Ramban, c'est le commentateur le plus connu qui dit ça, que tout ce qui a été créé pendant les six jours de la création, en réalité, a été créé ex nihilo au premier jour. On avait vu ça, que la seule, d'après Ramban, la seule vraie création ex nihilo, c'est la création de la ou des matières premières au premier jour. Et qu'ensuite, tout le reste, comme il le dit ensuite, et kol ma shenivrach reken hayu bekoach baem ela shayu yotzim kol davar vedavar min hakoach el hapoel kenoda. Et donc tout ce qui a été créé entre guillemets par la suite existait déjà en puissance dans cette matière première, et que chaque chose qui a été en réalité formée les jours suivants a consisté en un passage de la puissance à l'acte. Hine ki kol ma she'aya yesh ma'ayin ha'mohlet haya b'mamar ha'ishon. Donc ça veut dire que tout ce qui a été créé ex nihilo à partir du néant absolu, ça c'était juste à la première parole créatrice qui, dans cette lecture qui suit Ramban, était Bereshit bara Elokim et Hashem Yivadaretz, qui compte comme première parole. Aval acharekein lo haya ma'ase davar yesh me'ayin ki im yotze min hakoach el hapoel yesh me'yesh. Par la suite, il n'y a rien qui a été créé ex nihilo, mais tout a été créé à partir d'un étang préexistant, et seulement en consiste en un passage de la puissance à l'acte. Ve'alken shal ve'amal me'echan nivret. C'est pour ça qu'il pose la question d'où la lumière a-t-elle créée. L'omar, ce qui veut dire lo yimna o hayeta kechol yeter advarim shenivrau min hashamayim va'aretz o meora elyon. Il y a deux possibilités. Soit ça a été créé à partir de cette matière première qu'on appelle le ciel et la terre, soit ça a été créé à partir de quelque chose qui est préexistant à cette création ex nihilo, qui serait la lumière suprême de la gloire divine. Im hu me'ashamim va'aretz lo yitachen haya bekoach davar ruhani toch davar gashmi. Donc si ça a été créé à partir de la matière première qu'on appelle le ciel et la terre, c'est pas possible, parce que on parle d'une réalité spirituelle qui ne saurait être en puissance dans une réalité matérielle. C'est une option qui est prise chez lui, qui est que, bon, qui pourrait être éventuellement contestée par des philosophes contemporains. Et encore, le spirituel est d'un ordre complètement différent du matériel et n'est pas juste le développement d'une des potentialités de la matière. Elle est d'un autre ordre. Donc il dit, ça c'est pas possible. Veu le milemala mamash ech yomar yehi or sheyore al havaya hadasha. Et si en réalité la lumière dont on parle est une émanation de la lumière suprême de la présence divine, alors comment est-ce que on peut, le verset peut dire qu'il a dit que la lumière soit, qui implique la venue à l'existence de choses nouvelles. Or, soit on est dans la création à la suite de la terre et on est dans le matériel, soit on est en amont de ça et donc on n'est pas dans la création. שעל כן באומרו יהיה רקיה פירשוך זל, יחזק הרקיה על שכבר היה ביום הראשון. La manière on va voir plus tard que quand le jour suivant, le verset va dire qu'il y ait, on traduit un firmament, je ne sais pas ce que ça veut dire un firmament en fait. Rakia, ce serait une grande question de ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui est étendu. D'accord le verbe raka, ça veut dire, vous voyez, comme on jette une nappe sur une table. Et donc, le Midrash comprend que c'est pas que Dieu a créé un truc qui s'appelle Rakia ex nihilo le deuxième jour, mais que c'est quelque chose qui existait déjà le premier jour, et que juste on lui a donné une consistance, une rigidité. Le fait même de donner une rigidité à cette matière qui était protéiforme, s'appelle la création d'un étang nouveau. Sheim yehi or hu sheyishtalshel or ha'elyon lo yitzadek omro yehi. Et donc si justement la lumière créée le premier jour est juste une yishtalshel, c'est la racine shalshalshalshet, la chaîne. D'accord ? C'est juste une dérivation justement de la lumière primordiale, alors on ne peut pas dire qu'il y ait une lumière qui enara kit pashtut or ha'elyon, parce que c'est juste cette lumière préexistante qui se diffuse. Ve'od she'im ken lo yochlu esovlo, et si finalement cette lumière intellectuelle n'est qu'un dérivé de cette lumière suprême, alors comment est-ce que, et donc elle est de même nature, alors comment est-ce qu'il est possible de la supporter?
C'était la question finalement que je posais par rapport à la dérivation.
Exactement, voilà.
Non, enfin, c'est pas pour dire ça, c'est juste pour comprendre. Parce que si on dit que la lumière physique dérive de la lumière intellectuelle, donc la question, ce qu'on pourrait poser l'inverse, c'est est-ce que le physique, le matériel, parce que la troisième lumière, c'est du matériel ou pas?
Oui, c'est du matériel, bien sûr.
Le matériel, on admet que le matériel peut dériver.
Alors, c'est ça la question, c'est que effectivement.
Spirituel ou pas?
Exactement.
Côté, est-ce que dans l'autre sens, ça marche ou pas?
C'est, en fait, vous avez raison, toute la question ici, c'est si on pose qu'il y a que finalement il y a, au début du premier jour, deux réalités. Il y a la réalité de Dieu, de la présence divine en amont de l'acte de création, et il y a cette matière première qui est créée. D'accord ? Donc, je comprends qu'au niveau de la matière, il puisse y avoir des transformations dans l'ordre matériel, mais cet intellect, qu'est-ce que c'est que cette réalité de l'intellect qui est si bizarre ? D'accord ? Parce que finalement, la science physique moderne fait complètement l'impasse sur cette question-là. Elle fait comme si s'il n'y avait pas de question. Il y a de la matière, on étudie le fonctionnement de la matière et on ne se pose pas de la question de la réalité matérielle ou immatérielle de l'esprit, pour le dire rapidement. Okay. Or là, c'est précisément la question qu'on veut poser. C'est de dire, cet esprit qui est une réalité, est-ce qu'il est une forme de la matière, et on ne comprend pas comment ça peut fonctionner? Ou alors, est-ce qu'il est une forme du divin préexistant à la matière? Et à ce moment-là, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'il peut être présent dans le monde et perceptible par des individus qui sont dans le matériel. Et a fortiori, si en plus on commence à rentrer dans ces idées-là que c'est une lumière dérivée, qu'est-ce que ça veut dire une lumière dérivée? Est-ce qu'elle est de même nature? Est-ce qu'elle n'est pas de même nature? Et de la même façon qu'on aura cet écart qualitatif entre la lumière divine et la lumière de l'intellect, on aura le même écart entre la lumière de l'intellect et la lumière matérielle. Ve'rodukcha lo bekatuv omro vayi or velo amar vayichen. Et en plus, se rajoute la question de dire qu'on dit et la lumière fut ou et une lumière fut et non pas. Et ce fut ainsi, donc il y a bien une différence entre la première et la deuxième. Alken shal mechan nivret haola. C'est pour ça qu'il pose la question, d'où la lumière a-t-elle été créée? Lomal al shal dvarim enishoel. Je n'ai pas besoin de poser la question sur le reste des réalités créées. Ils ont été créés à partir de cette matière première du ciel et de la terre, en passant de la puissance à l'acte. Ça, il n'y a pas de question, c'est clair. Arshalti hi ala ola. Sheilati ou ala ola. Ma question, c'est sur la lumière. She misham hi ech hi ruhanit velohem ve im hi mechuvot oro yidbarach ech savluha bne adam ve gam lo tikare bria ela amshaha ve itpashtut ola. Donc, si ça a été créé, au contraire, à partir de la gloire de sa lumière divine, comment est-ce que les hommes ont pu la supporter ? Comment ça se fait qu'on parle à son sujet de création et pas simplement de diffusion ? Ça, c'est une question qui est très profonde et à laquelle tous les gens qui s'intéressent, la plupart des gens qui s'intéressent à la Kabbalah ne s'affrontent pas. Parce que les gens qui s'intéressent à la Kabbalah ne s'affrontent pas à cette question-là, ok ? On leur dit alors, oui, ok, il y a Atzilut et il y a Bria, et puis donc il y a la création, okay, avec les anges et le monde matériel, etc. Et en amont de ça, il y a un certain niveau qui s'appelle Atzilut, qu'on traduit abusivement par émanation, qui est une sorte de rayonnement organique, structuré de la lumière divine. Et c'est à la fois Dieu et pas Dieu en soi, une manifestation divine, etc. Alors, Atzilut, c'est très compliqué, mais c'est effectivement l'enjeu qu'on a ici. Et on va voir que, quand on va revenir sur Ramban, il va parler de ça. Et c'est une des rares fois où Ramban, qui est un immense kabbaliste, se risque à être aussi explicite en Kabbalah. On va voir ce qui est très marrant dans le commentaire du Ramban. C'est qu'il dit au début qu'il y a plein de choses, en particulier ici, qu'on peut comprendre qu'avec la Kabbalah, et qu'il ne veut pas en parler, et que une fois sur deux, il laisse passer des trucs quand même, parce qu'il ne peut pas s'empêcher, quoi. Mais vous allez voir que là-bas, il est particulièrement progressiste. Mais la question qu'on a ici, c'est ça. C'est que finalement, Atzilut, comment on va traduire ? Est-ce que c'est émanation, et donc émanation, ça veut dire diffusion, donc ça veut dire la même lumière qu'il y avait en haut et qui était au-delà de toute définition. Maintenant, cette même lumière-là, elle va être structurée et perceptible, ne serait-ce qu'en tant que manifestation divine, voire en tant qu'intellect agent. Je fais une petite parenthèse sur ces questions d'intellect agent, parce que donc c'est un terme qui vient de la philosophie aristotélicienne, mais qui est complètement assumé ensuite par la tradition théologique et kabbalistique chez les juifs comme chez les musulmans, où il y a cette idée que, justement, on voit ça chez Avicenne notamment. Parlons d'abord très rapidement du modèle avicénien. Le modèle avicénien considère qu'il y a justement un ordre d'émanation comme ça, à partir de la cause première, qu'il y a une première création qui est l'intellect divin qui émerge comme sorte de conscience de soi, de Dieu, et qui, en contemplant sa source, s'identifie tout en percevant sa différence par rapport à elle, et de ce fait-là engendre une sphère qui est animée d'un intellect, et donc il y a après toute une concaténation de sphères célestes avec des intellects associés, mus par un désir de connaître leur origine, et c'est ça qui crée tout l'univers concentrique des sphères célestes, qui bouge par la vertu de ces intellects-là. Et la dernière sphère, c'est la sphère lunaire, auquel est associé le dernier intellect, qui est l'intellect agent, qui joue pour l'intellect humain, justement, le rôle que la lumière joue pour l'œil humain. Okay, donc c'est cette hiérarchie-là, avicénienne, qui est très classique, qui est plus ou moins reprise par les kabbalistes, avec cette idée-là que, alors on va voir plus en détail, au niveau des séphirotes, donc qui sont placés pour le coup en amont des sphères célestes, bon, c'est des sphères supracélestes qui relèvent du monde divin proprement dit, mais il y a cette même enchaînement d'intellect, et que à un certain niveau il y a un de ces intellects là qui est justement l'intellect agent, qui est ce qui permet à l'homme de comprendre les réalités divines. Donc c'est une lumière divine suffisamment filtrée pour qu'elle soit perceptible par l'homme et qu'il puisse de là pouvoir remonter de niveau en niveau pour percevoir des réalités de plus en plus hautes. Okay. Et pourquoi je disais tout ça ?
Je posais la question
d'Atsilut. Voilà, et donc Atsilut, qui est donc toute cette hiérarchie d'intellect dont l'intellect serait le plus bas, comment on traduit ? On traduit par émanation. Et là, il y a tout. J'avais fait ça, je ne sais pas si. Je ne crois pas que je l'ai enregistré, je ne sais même pas si je l'ai écrit. Mais il y a au congrès de la Société des Juifs qu'il y a eu à Strasbourg l'été dernier en 2019. Mon étude, c'était justement là-dessus. C'est-à-dire que émanation, c'est un terme latin qui, au sens propre, se réfère à des parfums, voilà, quelque chose qui se diffuse. Qu'on utilise pour traduire des termes chez Plotin, donc dans le néoplatonisme le plus classique, des termes qui ne veulent pas dire émanation là-bas. Qui veulent dire engendrer, qui veulent dire créer, etc. Et Atsilut, ça ne veut pas dire ça non plus. Atsilut, il y a deux racines possibles, qui ont l'air d'être une seule en hébreu, mais qui ne sont pas forcément la même, qui sont Asel, qui veut dire Etzel, c'est-à-dire être auprès d'eux, au plus près d'eux. Donc dans la plus grande proximité, mais qui renvoie aussi à la racine celle qui veut dire l'ombre projetée. Atsilut, ça peut être compris comme ça, soit à la fois le monde de la proximité divine, soit l'ombre, soit le monde que la lumière divine projette sur le monde créé en quelque sorte. Et c'est pas impossible qu'il y ait aussi un lien avec la racine arabe asel qui veut dire racine, qui serait le monde des racines de tout le reste, quoi. En tout cas, si on traduit par émanation, alors effectivement, on part dans le problème que soulève Al-Sheikh ici, c'est-à-dire si c'est juste une simple diffusion de la lumière primordiale, en quoi est-ce qu'elle acquiert une qualité différente qui la rend supportable au monde ? Alors que justement, tout le but, c'est de mettre une certaine distance pour qu'on ne soit pas aveuglé par la lumière divine infinie et qu'on soit juste réabsorbé en elle.
Tout ce problème, il vient du fait qu'on a considéré que la deuxième lumière dont il était question, était nécessairement la lumière intellectuelle, elle ne pouvait pas être la lumière matérielle, parce que c'est dans le verset que c'est écrit qu'elle permet de voir...
Voilà, pas dans le verset, c'est dans le Midrash que c'est rapporté comme
d'accord.
Ça.
D'accord. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils ont considéré, parce que c'est voilà. Ça qui pose problème finalement.
Ouais,
si
c'est ça qui pose problème.
Si c'était le matériel, c'était bon, on disait que c'était à partir de la matière première, et puis...
Voilà, alors sauf qu'on rentrait dans un autre problème, qui était que finalement, si cette lumière matérielle... dont on parle dans le verset, c'est la lumière matérielle. La lumière matérielle qu'on connaît dans notre réalité, c'est la lumière du soleil. Or, le soleil n'existe pas encore, puisqu'il va être créé que le quatrième jour. Alors, il y a une autre option, effectivement, dans le Midrash, qui dit que les luminaires ont été créés dès le premier jour et qu'ils n'ont été accrochés, entre guillemets, que le quatrième jour, et que ce serait la même lumière. Mais ce n'est pas l'option qui est prise par ce Midrash-là qui fait référence, et ce n'est pas l'option qui est prise par Rashi. Et c'est pas l'option qui est prise par Ramban. Donc nous, on travaille dans leur cadre, quoi. Parce que sinon, bon, oui, on peut dire autre chose. Mais on n'échappera pas à cette question-là qu'il y a quand même deux lumières dans le verset et que donc il y en a bien une qui est en quelque sorte dérivée de l'autre, mais on ne sait pas ce que ça veut dire dérivée. Donc les Ehamar, c'est ça qui dit, mais la Med. Ça nous apprend que Dieu s'est enveloppé de la lumière comme d'une étoile et qu'il a fait percer le rayonnement de sa gloire d'un bout du monde à l'autre. Qui me omro ye or ve gam lo amar vayechen. Mais la même qui, donc du fait qu'il a répété ye or et qu'il n'a pas dit vayechen, alors ça nous apprend. Que dit-il, comme le dit Midrash, Dieu s'est enveloppé d'une lumière et a produit une autre lumière, c'est-à-dire qui aya mea or aelion velo aya et pashtuta or. D'accord, c'est qu'en fait, Dieu s'est en quelque sorte enveloppé de la lumière de sa gloire, et que ce n'est pas cette lumière-là qui s'est diffusée en tant que telle.
Pourquoi ils ont besoin, enfin c'est Midrash, mais pourquoi ils ont besoin de dire il s'est enveloppé de cette lumière? Pourquoi ils ne disent pas la lumière divine et puis,
Ben justement, c'est ce qu'il va expliquer. Qui im ke she ke asher hamit atef be simla hi mafseket ben ituf el avir haolam car hu yitbarach sam masach mafsik beno yitbarach le avir haolam me or ruchanit me ove beofen shelo yitpashet metziut nehora de ame de ime shana le haolam ki im behikat or elyon ahmake be masach yithave be ever alaz Or, mais en rohaniut aïlion. Ach, mais ouve begeder yochlou lisovlo bne adam. Donc, je traduis parce que c'est tout. Il dit donc, pourquoi on dit qu'il s'est enveloppé? Parce que quelqu'un qui s'enveloppe d'un manteau, donc ce manteau-là fait obstacle entre le sujet qui s'enveloppe et l'espace du monde. Ok? Et donc, de la même manière ici, Dieu, à partir de sa lumière propre, a formé un écran qui crée une interruption entre lui et le monde. Et que donc, ce manteau divin est sa lumière propre, mais qui est épaissi pour devenir, si ce n'est opaque, en tout cas translucide. De façon à ce que ce ne soit pas la nature propre sa lumière primordiale qui passe comme à travers une vitre, mais qu'elle soit filtrée et que ce soit juste un rayonnement justement dérivé de cette lumière, parce qu'elle frappe un écran. Et cet écran joue le rôle de filtre.
Et c'est un écran de lumière.
C'est un écran de lumière, parce que de toute façon, il n'y a que des réalités lumineuses. D'accord. Et donc là, il rajoute effectivement encore une lumière. Il y a la lumière primordiale, non filtrée. À partir d'elle, est créé un écran qui va filtrer cette lumière primordiale pour engendrer une lumière dérivée, pour le coup.
Et donc là, on comprendrait pourquoi elle est supportable.
Voilà, c'est comme ça qu'elle est supportable. Donc elle garde sa nature spirituelle, mais elle devient supportable parce qu'elle a été tamisée, en réalité. Alors, pour rendre les choses un peu plus douces, un peu compréhensibles, nomar shehu mashal le'or shemesh. Prenons l'exemple de la lumière du soleil. D'accord ? Ki yahel derech halon yahil babayit. Parce que si vous avez une fenêtre, d'accord, une ouverture dans votre mur, alors vous avez la lumière du soleil qui arrive. Ou les mains yurklu les sovlo hadgarimbo yasimo bechalon masar shel zechuchit sheyikebo hashemesh yavik mipnima or mimuat meor hashemesh atzmo. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, pour que la lumière soit pas trop aveuglante, les gens mettent une vitre à la fenêtre, d'accord, qui déjà filtre un petit peu la lumière. Donc ça la rend supportable. Ve'im azechuchit litzchuto tarbe behikato mele hakilo. Mais si la lumière est trop intense et que une vitre n'est pas suffisante pour filtrer la lumière et la rendre supportable, yasimu masarch simlat yeriat Pashtan, Daka, Mina Daka, Asher, le Dakuta, Alo, Yvatser, Pnimam, le Avik, Or, Hashemesh, Amakebo. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils ne vont pas mettre des gros rideaux non plus, parce que ce n'est pas le but d'assombrir la pièce. Ils vont mettre un voilage en lin, qui filtre la lumière. Ou Bechla, Aeflesh, Even, Masar, Zechuchit, Zach, le Simla, le Vanash, et Daka. Alo, ki Behikat, Hashemesh, Mitoch, Amasar, Zechuchit, Hu, ki Atzmiut, Or, Hashemesh, Atzmo. אה מפלש ממסך הזך, אך מפלש מתוך יריעת לבנת דקה, הוא כדבר המתהווה ולא כעצמיות אור השמש. La différence entre une vitre et un voilage, c'est que la lumière qui passe par la vitre, elle ne change pas de nature, enfin, c'est même pas de nature, de qualité. C'est la même qualité qu'il y ait une vitre ou pas. Alors que s'il y a un voilage fin, oui, c'est la même lumière, mais sa qualité est différente pour les sujets qui la reçoivent. D'accord ? Et ça, c'est une distinction qui est fondamentale ici. C'est qu'on ne parle pas de comment les choses sont en soi, mais comment est-ce qu'elles peuvent être reçues par des sujets humains. Et le fait même que cette lumière soit tamisée la rend supportable alors que qu'elle n'était pas avant, et donc de ce fait-là, elle change de nature pour celui qui la reçoit. Donc il dit là c'est la même chose pour que Dieu a voulu illuminer le monde de sa lumière suprême en faisant en sorte que les gens qui habitent le monde puissent supporter cette lumière, et donc il a conçu de placer un écran, un voile, et de diffuser sa lumière à travers ce voile. Sauf que ce voile, effectivement, sa particularité, c'est qu'il est lui-même fabriqué à partir d'un épaississement de la lumière primordiale. Comme le dit le verset dans Yéhézkel, « Veno